Bibracte, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. http://fr.wikipedia.org. Bibracte était la capitale du peuple celte des Éduins de la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Centre névralgique du pouvoir de l'aristocratie éduenne, c'était aussi un important lieu d'artisanat et de commerce, où se côtoyaient mineurs, forgerons et frappeurs de monnaie sur une superficie de près de 135 hectares. Ce site remarquable, situé sur la commune de Saint-Léger-sous-Beuvray, en Saône-et-Loire, dans le Morvan, au sommet du mont Beuvray, communément appelé le Beuvray dans la région, est au confluent des bassins de la Saône, de l'Yonne, de la Seine et de la Loire. Le Beuvray est constitué de trois sommets, le Taureau de la Luivre, avec sa pierre, le Taureau de la Roche et le Poreil qui est le point culminant. Le site héberge le musée de la civilisation celtique qui retrace la vie de cette cité de quelques 5 à 10 milliers d'âmes au sein d'un oppidum fortifié que des fouilles archéologiques du mont Beuvray révèlent peu à peu. La conservation et la gestion du site est gérée par la Société Anonyme d'Économie Mixte Nationale, SAEMN, éponyme du lieu qui est devenu un établissement public en 2007. Partie 1. Étymologie. L'origine du mot bibracte est encore assez mal connue. Ce terme est peut-être issu du celtique biber, castor, ou du latin bifractus, doublement fortifié. Cette dernière version est cependant plus incertaine, tant d'un point de vue stratégique qu'historique. En effet, il est très difficile de protéger un rempart sur plusieurs kilomètres, et l'utilisation d'un double rempart n'est donc pas justifiée. De plus, l'enceinte de la ville a été retrécie, puisque des mesures de datation ont permis de montrer l'antériorité du rempart extérieur par rapport au rempart intérieur. Le parement en pierre de l'enceinte extérieure a d'ailleurs été certainement réutilisé pour la construction du second mur. Il n'est donc pas certifié que Bibracte a eu deux murs d'enceinte simultanément. Une toute autre explication pourrait provenir de trois inscriptions dédiées à la déesse Bibracte qui ont été trouvées à Autun au XVIIe siècle. Malheureusement, deux des inscriptions taillées dans la pierre ont disparu. La troisième, gravée sur un médaillon en laiton, fait toujours l'objet d'un débat sur son authenticité. En effet, les anciennes querelles sur la localisation de Bibracte ont peut-être mené certains érudits de l'époque à fabriquer des faux pour justifier l'emplacement de l'oppidum éduin sur le site d'Autun, l'ancien Augustodunum, qui fut effectivement capitale du peuple éduin au 1er siècle. Quoi qu'il en soit, le mystère sur les origines de Bibracte est toujours intact. Partie 2. Découverte de Bibracte. La première mention de Bibracte dans l'histoire a été faite par César dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, concernant l'année -58. Celle-ci est à nouveau mentionnée en -52 lorsque César s'interroge sur les intentions de ses alliés éduins qui ont rejoint la révolte et couronne Vercingétorix roi des Gaules à Bibracte. Celle-ci ne sera plus mentionnée. Des inscriptions d'époque annoncent que la capitale éduenne a reçu le nom d'Augustodunum, la citadelle d'Auguste, sous le règne de celui-ci. Le nom donnera naissance à l'actuel Autun. À partir du XVIe siècle, naît un engouement chez les savants, les aristocrates et les hommes d'église pour leur passé local qui conduit à poser la question de l'emplacement de Bibracte. Deux thèses vont alors s'affronter. L'une veut situer Bibracte à Autun, la ville gauloise à l'emplacement de la ville gallo-romaine. L'autre thèse veut que la cité soit sur les pentes du Beuvracte ou Bévracte, aujourd'hui Mont Beuvray. Cette dernière thèse s'appuie sur trois arguments majeurs. Tout d'abord, il y a une parenté entre les termes Bibracte et Beuvracte. Ensuite, cette hypothèse invoque une tradition transmise par des chroniques médiévales qui situait la ville au Beuvracte. Ceci est conforté par l'existence d'une foire annuelle les premiers mercredis, jeudis et vendredis de mai et dont l'ancienneté est déjà relatée dans les textes du XIIIe siècle. Enfin, les découvertes de poteries, de monnaies et les observations du curé de Saint-Léger-sous-Beuvray en 1725 vont dans ce sens. D'une manière générale, C'est l'hypothèse d'Autun qui reçoit la plus grande approbation au début. D'ailleurs, Autun sera rebaptisé Bibracte après la Révolution, et cela pendant quelque temps. Il faudra attendre le XIXe siècle et les recherches de Jacques-Gabriel Bulliot pour que la situation s'inverse en faveur du Mont Beuvray. En 1851, Bulliot décide de faire une communication au congrès de la Société française d'archéologie sur une antique chapelle, la chapelle Saint-Martin au Mont Beuvray, au sujet de la christianisation du pays et du Hain. Il retourne alors au Beuvray pour prendre d'autres notes. Il découvre ce qu'il pense être alors le talus d'un camp romain, en réalité un émeuton, au sommet du Beuvray, près de la chapelle. Il se documente et envisage, contre l'opinion unanime de la société et du Hain, de situer Bibracte au Beuvray et non à Autun. La publication de son essai sur le système défensif des Romains dans le pays éduin entre la Saône et la Loire, dans lequel il expose ses convictions, ne lui valent que les sourires des membres de la Société d'archéologie. C'est l'intérêt de l'empereur Napoléon III pour les batailles de la guerre des Gaules qui vont accélérer les choses. En effet, Bulliot va recevoir la visite d'un officier, nommé Stoffel, chargé par l'empereur d'effectuer des fouilles sur la victoire romaine contre les Helvètes. Bulliot lui fait alors part de ses convictions quant à la situation de Bibracte. L'officier lui porte peu d'intérêt, mais il confie à un autre membre de la société éduaine, Xavier Garenne, la mission d'effectuer des sondages au Beuvray. Parallèlement, le propriétaire des terres, le vicomte d'Abbeville, effectue aussi ses propres recherches qu'il montre à l'archevêque de Reims, lui aussi membre de la société éduaine et ami de Bulliot, malgré leurs divergences sur la question de Bibracte. Intéressé par ces fouilles, ce dernier va en faire part à l'empereur. C'est ainsi qu'en 1867, Napoléon III missionne Bulliot pour des recherches au Beuvray en lui allouant des fonds. Bulliot fouillera le site de 1867 à 1905, levant tous les doutes quant à la situation de Bibracte. Son neveu, Joseph Deschelettes, qui l'initie aux fouilles, continuera les travaux jusqu'en 1907, comparant Bibracte à d'autres sites d'Europe, tels que Stradonis en Bohême, Manching en Allemagne et Velemsenstvid en Hongrie, ce qui fera de lui l'un des précurseurs dans l'unification culturelle du monde celte et de la civilisation des Oppida. Partie 3, Histoire de l'Oppidum. Partie 3.1, Chronologie du peuplement de Beuvray. Les fouilles de la porte du Rebout ont permis de découvrir une succession de 5 ouvrages dont le plus vieux atteste de la présence humaine sur le mont Beuvray dès le néolithique. Cependant, les techniques de datation ont révélé que l'oppidum ne fut fondé que vers la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, sur une surface de 200 hectares protégée par le rempart extérieur. Un second rempart inférieur fut construit par la suite pour des raisons encore méconnues. Les Éduins ayant obtenu le statut d'amis du peuple romain, des contacts avec les commerçants romains sont probables avant la conquête de la Gaule par Jules César. Ce statut privilégié fit que Bibracte ne souffrit guère du conflit. En -58, à 25 km au sud de la cité, à Montmort, les armées de Jules César obtinrent la victoire sur les Helvètes, les forçant à retourner en Suisse et être peu à peu incorporés dans ce qui allait devenir l'Empire romain. Malgré un ralliement à Vercingétorix en -52, lorsqu'une assemblée des peuples de la Gaule à Bibracte lui confia le commandement suprême des armées gauloises, César traita la cité avec ménagement après sa victoire à Alésia. Il y séjourna durant l'hiver 52-51 pour rédiger ses « Commentaires sur la guerre des Gaules ». Ceci révèle entre autres le nom de certains hauts personnages de l'aristocratie éduenne tels que Dumnorix, Vergobret, des Éduins, et son frère Diviciacos, druide. La ville va connaître son plein essor durant les décennies qui suivent la guerre. Le géographe Strabon, qui écrit une génération après César, signale encore Bibracte comme place forte des Éduins. Après la fondation d'Autun, Augusto Dunum, en -15 environ, sous le règne d'Auguste, à 25 km, Bibracte fut peu à peu délaissé par ses habitants. Des cultes se poursuivent cependant dans les temples et près des fontaines, et les habitations aristocratiques continuent d'être entretenues. Deux hypothèses principales sont avancées quant à cet abandon progressif du site sur quelques décennies. Cette migration peut être due à des raisons économiques ou à une volonté d'intégration au modèle romain. Une partie de la classe dominante éduenne, déjà pro-romaine durant la guerre des Gaules, a certainement pris conscience de l'importance stratégique de la nouvelle ville située sur les principaux axes de communication, et a aussi voulu s'adapter au modèle romain des villes de plaine, tandis qu'une population plus traditionnelle est restée un temps sur le site. On sait qu'il subsiste une foire chaque premier mercredi de mai par des textes du XIIIe siècle. Au XVe et XVIe siècle, le couvent des Cordeliers s'installe sur le Beuvray. Il est abandonné, mais la foire perdure. Partie 3.2. Influence et puissance de l'oppidum. Outre la création du type beuvraisien dans la classification des populations antiques par Gabriel de Mortillet, terme aujourd'hui abandonné puisque ne correspondant à aucune réalité historique, la puissance de la capitale éduenne est relatée dans les commentaires sur la guerre des Gaules, qui souligne les nombreuses alliances des Éduens avec des peuples voisins. César mentionne également les guerres qui ont opposé les Éduens aux Arvernes et aux Sécanes pour l'hégémonie sur une grande partie de la Gaule. Ces mentions ne sont pas anodines, puisque Rome est l'allié des Éduens, leurs frères de sang, depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ au moins. Ils entretiennent d'ailleurs des liens commerciaux et des alliances guerrières. Rome secourt les Éduens au IIe siècle avant Jésus-Christ, en écrasant l'armée arvène et répond à leur appel contre l'invasion helvète en Gaule qui mène à la guerre des Gaules. Outre cette puissante alliance avec Rome, les Éduens faisaient également partie d'une confédération de tribus celtes. Les Ambars, dans l'Ain, les Olerques Branovic, les Bélovaques, les Bituriges Cubes, Berry, les Parisiens, les Ségusiaves, Forez, limitrophes avec les Arvennes, et les Sénons, région de Sens, dont l'influence s'étendait ainsi sur une bonne partie du territoire gaulois. Enfin, l'aspect démographique n'est pas à négliger, puisque les archéologues estiment la population du Beuvray entre 5000 et 10000 habitants lors de son plein essor. Partie 3, 2, 1. Commerce. Dans son Histoire de la Gaule, l'historien Camille Julian écrit ces quelques lignes sur les Éduens. Bibracte, j'en suis sûr, fut le point de départ et le plus sûr garant de leur puissance. Autour de Bibracte circulaient de très bonnes routes, unissant les trois plus grands bassins de France. Ainsi, les produits romains remontant le Rhône, les voies fluviales étant les plus rapides à l'époque, et qui empruntaient ensuite la Saône, la Loire ou l'Allier, passaient en territoire éduin avant de rejoindre les bassins de la Loire et de la Seine. Les Éduens se situaient à un carrefour commercial important entre le monde celte et Rome. D'autant plus que le Beuvray domine à l'ouest la vallée de la Loire et à l'est la vallée de la Saône. Ils ont ainsi permis la diffusion des produits romains à travers la Gaule dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, permettant à leurs alliés de la Confédération de profiter de leur commerce avec Rome et certainement avec les colonies grecques telles que Massilia. Ce commerce est attesté par les grandes quantités d'amphores et de céramiques venues d'Italie, retrouvées dans des fosses à déchets et dans des dallages de maisons. En outre, les Éduens avaient installé un système de douane qui taxait les produits passant sur leur territoire pour accroître leur richesse, comme semblent l'attester les textes de César. C'était bien Dumnorix. L'homme était plein d'audace, sa libéralité l'avait mis en faveur auprès du peuple et il voulait un bouleversement politique. Depuis de longues années, il avait à ville pris la ferme des douanes et de tous les autres impôts des Éduens, parce que, lorsqu'il enchérissait, personne n'osait enchérir contre lui. D'ailleurs, Éduens et Sécanes se battaient pour le contrôle de l'Arar, actuelle Saône, puisque le contrôle du fleuve permettait de taxer l'ensemble des produits romains et celtes qui partaient vers le nord du continent par voie fluviale. Partie 3.2.2. Politique. Le système politique des Éduens a été essentiellement reconstitué d'après des indications disséminées dans les commentaires sur la guerre des Gaules. À la tête de l'État éduen, siégeait un sénat réunissant un seul membre de chacune des familles aristocratiques éduennes. Ce que l'on appelle aujourd'hui le pouvoir exécutif était détenu par le Vergobret, magistrat suprême, qui exerçait ses fonctions pendant un an. Il lui était interdit de sortir des frontières du territoire pendant cette période, ce qui lui empêchait de commander l'armée en dehors des frontières. Cette mesure, avec celle qui autorisait une seule voix par famille aristocratique au sénat, visait certainement à empêcher qu'un individu ou sa famille n'accapare les rênes du pouvoir. Le Vergobret était élu publiquement par un conseil dirigé par les druides. Chez les Éduens, il semble que le Vergobret exerçait aussi un rôle judiciaire, puisque César rapporte qu'il avait droit de vie et de mort sur ses concitoyens. Enfin, on pense que le Vergobret était responsable de l'administration du territoire. César précise que ce sont les druides qui en sont chargés. Ils estiment que la religion ne permet pas de confier à l'écriture la matière de leur enseignement, alors que pour tout le reste en général, pour les actes administratifs publics et privés, ils se servent de l'alphabet grec. Aucune fouille n'a encore permis de retrouver de tels actes, dont le support en bois couvert de cire est périssable. On sait également que les druides occupaient de hautes fonctions, puisque Divi Siakos vint à Rome pour plaider la cause des Éduains lors de l'invasion germanique menée par Arviostis à la solde des Sécanes. Il dirigea aussi la cavalerie éduenne durant la guerre des Gaules, après la mort de son frère Dumnorix. On suppose donc que certains druides occupaient de hautes fonctions guerrières. Partie 4. Recherche archéologique sur le mont Beuvray. De 1865 à 1895, Gabriel Bulliot identifia Bibracte en 1867 et y entama des fouilles, notamment le quartier artisanal celte aux alentours de la porte du Rebout, à l'aide des fonds alloués par Napoléon III. En effet, passionné d'histoire, l'empereur a mis sur pied de vastes campagnes de fouilles pour retrouver les sites de la guerre des Gaules afin de rédiger son histoire de Jules César. Le modeste Hôtel des Gaules, qui hébergea sur place le chercheur, y a été reconstruit depuis. Joseph Deschelette, neveu de Bulliot, reprend ses travaux de 1895 à 1907. Il est tué durant le premier conflit mondial. Les fouilles tombent alors dans l'oubli. En 1984, les fouilles reprennent sous l'impulsion de François Mitterrand, qui proclame Bibracte site d'intérêt national en 1895. Ce terme, inventé pour l'occasion, va permettre au site d'être subventionné. Le label d'intérêt national est créé par la suite pour désigner des expositions ou des sites qui bénéficient d'un programme de diffusion et d'élargissement du public mené par le ministère de la Culture. Toujours est-il que ceci va donner l'impulsion nécessaire à un projet de fouille d'ampleur bientôt européenne. C'est ainsi qu'est créé, en 1989, le Centre archéologique européen du Mont Beuvray, qui regroupera le site, le musée et le centre de recherche de Glux-en-Glen. Il est inauguré en 1995. Par arrêt du 21 mars 1995, le ministre de la Culture, sous l'avis du Conseil national de la recherche archéologique, confirme dans la liste des sites archéologiques d'intérêt national l'oppidum de Bibracte, Mont-Beuvray, Saint-Léger-sous-Beuvray, Saône-et-Loire, Glux-en-Guienne, Nièvre. Les fouilles sont actuellement conduites par Vincent Guichard et mises en œuvre par plusieurs équipes françaises et étrangères. Les fouilles se concentrent notamment sur le quartier gaulois du Rebout, sur le vaste ensemble gallo-romain de la pâture du couvent et la demeure romaine du parc aux chevaux. Ainsi, des spécialistes, des chercheurs, des professeurs et des étudiants venus de l'Europe tout entière se côtoient chaque été sur le site pour fouiller différentes parties du site. On retrouve entre autres Allemagne, Université de Kiel, de Leipzig, d'Ingolstadt, de Mayence, Autriche, Université de Vienne, Belgique, Université de Bruxelles, Espagne, Université de Madrid et de Saragosse, France, Université de Besançon, de Dijon, Paris 1, Paris 6, de Tours, Royaume-Uni, Université d'Édimbourg, Hongrie, Université de Budapest, Italie, Université de Boulogne. Chaque université fouille le site sous forme de projets triennaux qui se tournent actuellement vers la compréhension du monde de fonctionnement d'une cité celte de la période de la Thème. Leur recherche se compose d'un travail sur le terrain de quelques semaines qui se poursuit par une étude détaillée de la fouille et des objets découverts qui seront ensuite entreposés au centre de recherche du site. Partie 4.1. La prospection archéologique au Mont Beuvray. La technique de prospection utilisée par Bulliot est rudimentaire. Elle consiste à observer les accidents du terrain, puisque le mont n'a pratiquement pas évolué depuis l'époque. Ceci lui permet de relever un plan des remparts presque sans fouiller. Il employa cette technique à l'échelle du site avec le concours des topographes de l'armée, qui réalisèrent une série de relevés topographiques du terrain. Seul celui du quartier de Poreil a été conservé jusqu'à nos jours. Ces dernières années, c'est la même technique qui a été utilisée dans le même quartier de Poreil, avec des outils plus précis, tels que des théodolites et des GPS. En effet, la prospection aérienne ou électromagnétique est rendue impossible par la végétation qui a reboisé le mont depuis l'arrêt des pâturages et des fouilles de Deschelette. Une technique onéreuse mais plus rapide sera testée courant 2007. C'est la technique du scanner laser aéroporté, LIDAR, qui permet de passer outre la végétation et de relever en quelques minutes ce qu'il faut habituellement plusieurs semaines à mettre en œuvre. Cela sera réalisé dans le but d'essayer de lever un plan complet de la ville et d'archever la topographie des lieux.